Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette émission de État de Splendeur. Nous sommes mardi le 20 juillet 2010 et il est approximativement 10h du matin. Alors, en cette émission matinale, nous avons plusieurs sujets pour vous. Donc, nous allons commencer. Voilà, donc, c'est donc un re-bienvenue à l'émission d'aujourd'hui qui, en fait, va être une retranscription de la dernière émission à avoir eu lieu sur les ondes de CKRL, puisque l'émission a été malencontreusement abrégée et donc l'enregistrement de l'émission n'a pas pu se faire correctement. C'est dommage, mais que voulez-vous? Alors, c'est avec une grande tristesse que j'ai quitté, que nous avons quitté CKRL, parce que ça a été vraiment une chaîne qui nous a offert un support très intéressant, très apprécié. Une bonne équipe dynamique avec toutes sortes de sujets diversifiés dans les différentes émissions, avec quelques très bonnes émissions. Et aussi, il faut le souligner, c'est la plus vieille radio communautaire au Québec et je pense dans le Canada aussi. C'est ça. Et puis en même temps, c'est peut-être une des dernières émissions de la radio web EDS à être enregistrée dans le studio du Coteau, studio qui a vu naître le projet État de Splendeur. Puisque, comme tel que l'annonçait un message du 28 juin, on est en pleine recherche pour relocaliser notre studio. Donc, les sujets du jour, étant donné que c'est les sujets qui étaient samedi à CKRL, dimanche, c'est les mêmes. Donc, on commence par brièvement expliquer pourquoi État de Splendeur. Ensuite, on va énumérer trois différents producteurs rencontrés au fil des recherches qui ont été effectuées pour État de Splendeur. Trois producteurs rencontrés qui sont source d'inspiration et dignes de mention, vraiment. C'est ça. Et puis pour débuter, ça va être l'école de vie et survie en forêt Manitou avec John DiFruccia. Ensuite, ça va être Monsieur Marc-André Saint-Yves d'une certaine fromagerie. Et enfin, l'Institut culturel Avatak qui lui œuvre dans le Nunavik, qui est à ne pas confondre avec le Nunavut. Le Nunavik étant dans le nord du Québec, Nunavut étant un territoire du Canada. Et puis, c'est cela. On va débuter ça au retour de cette pièce musicale de Smashing Pumpkins qui s'appelle Sweet Sweet. C'était donc Smashing Pumpkins avec Sweet Sweet. Et puis, J'avais décidé de débuter l'émission qui était la dernière émission à CKRL dimanche le 18 juillet par une brève explication de pourquoi État de splendeur a eu lieu. Et puis en fait, c'est que État de splendeur, pour en donner une brève définition, c'est une synthèse de différents lieux, personnages ou faits historiques, entreprises, qui reflètent de par leur singularité ou leur qualité, ou par leurs caractéristiques appréciables, qui reflètent l'actualisation de la culture au Québec. Mais l'actualisation de la culture et non pas sa folklorisation. Donc, c'est-à-dire la culture qui sans cesse se recrée. Et puis, ça a été initié à partir d'un voyage en 2000. Et en 1999, les premières fois où je découvrais le camping et puis la nature, et puis en observant la forêt, et puis le nombre de différentes sortes de richesses qu'il y avait à l'intérieur de la forêt, et puis étant jeune et idéaliste, je me disais que bon, c'est l'exploitation forestière avec une seule, un seul but, c'est-à-dire l'extraction de ressources de ligneuses. Ça va faire disparaître toute la forêt. Si on ne fait pas attention pour exploiter toutes les différentes richesses de la forêt et puis les mettre en valeur, elle va être sauvagement exploitée. Et puis si on passe à côté de tout un patrimoine. Là, et puis ça a été confirmé aussi par un voyage en France où là j'ai vu que avec les siècles et les siècles et les siècles peut se développer une tradition où dans les différentes régions on met en valeur les différentes ressources qu'on a pour faire des produits qui sont de renom international maintenant et puis qui sont qui reflètent un savoir-faire qui en fait est un, comme un patrimoine à l'humanité. Et puis j'ai vu qu'au Québec, on a une diversité quand même assez inouïe de territoires et de richesses humaines et naturelles. C'est incalculable, puis ça mérite d'être mis en valeur. Donc, on avait commencé ça par un projet de publication écrite en 2000. Et puis, ça a été imprimé, mais jamais lancé, parce que sans cesse, le projet était en réadaptation et puis en reconfiguration et puis en repositionnement, si on veut, parce que la technologie évoluait et puis aussi la dynamique des produits du terroir. Il y a eu un boom de produits du terroir en 2002. J'ai aussi fait un projet de recherche assez approfondi. Donc, avant de le lancer, on a décidé d'approfondir les connaissances et tout ça. Et finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un projet multimédia avec un volet audio que vous entendez présentement et un volet écrit. Et un volet vidéo qui va s'en venir sans doute selon nos prévisions au mois de décembre. Alors, c'est une heureuse histoire, mais qui ne fait que commencer, là. Et puis, vous allez probablement entendre parler de la publication physique au cours des prochaines semaines. Elle devrait apparaître d'ici la fin de la semaine. Et puis, comme vous le savez, l'émission de radio web hebdomadaire de CKRL va être remplacée par une émission de radio web hebdomadaire sur sur cette station internet-ci. Et puis, donc, au retour, on va parler d'ex-producteurs qui ont été rencontrés au fil des années dans les recherches qui ont été source de motivation et source d'inspiration. Et vu qu'on est en pleine réorientation et qu'on recherche des nouveaux locaux pour le studio du Coteau, on va mettre une musique qui inspire le mouvement. C'est Exodus de Bob Marley.
Movement of your people.
c'était Bob Marley avec Exodus, qui a été arrêté de manière prématurée puisque c'est une chanson de 7 minutes. Alors, on va citer plusieurs producteurs, trois différents producteurs qui sont des producteurs qui nous ont marqués, qui sont source de motivation. C'est sûr qu'il n'y en a pas un en particulier qu'on peut dire qui nous a marqués, parce qu'ils nous ont tous marqués. Chaque producteur qui prend le risque de partir de manière indépendante et produire quelque chose de leurs propres mains ou de manière semi-industrielle, mais de qualité, est quand même digne de mention. Sauf qu'il y en a trois ici qui sont source d'inspiration. Le premier est un certain John DiFruccia. John DiFruccia, c'est quelqu'un qui est à moitié italien, à moitié algonquin, et est né au Québec. Et puis son père, qui était italien, en tant que bon père, voulait qu'il fasse des études, des bonnes études. Et lui, depuis qu'il était tout petit, il a été porté vers la nature, c'est sûr. C'est sûr dans son cas. Et puis, par conséquent, il a entrepris des études naturalistes. Et puis, très vite, il a été insatisfait par ça, puisque il s'est rendu compte que l'essentiel de son intervention, c'est ça ici. Juste un instant. Donc, c'est ça. Excusez-moi. Monsieur s'est rendu compte que l'essentiel de ses études naturalistes, le seul contact avec la nature qu'il avait, c'était de capturer un lézard, de le mettre dans une cage, de l'analyser, de prendre ses mensurations et de faire son inventaire à la limite. Mais lui était très insatisfait par ça, voulait un contact réel avec la nature et ne l'a pas trouvé, donc a erré pendant plusieurs années, malheureusement, dans sa désillusion. Il est devenu même facteur. Son père était content quand il est devenu facteur, mais malheureusement, lui a pensé faire une dépression nerveuse, donc il a enchaîné toutes sortes d'emplois. Jusqu'à ce qu'un jour, il entende parler d'un certain Tom Brown qui a parti d'une école en Californie. Ce Tom Brown est un individu assez particulier. Il a entendu parler de son histoire et Tom Brown a été adopté par un individu qui était sur une terre d'un de ses amis. Il a été adopté, mais à partir de son adolescence, je crois, par un vieil apache qui s'appelait Stalking Wolf. Et puis, Stalking Wolf qui veut dire loup qui guette. Et puis, Stalking Wolf était un vieil homme, mais quand même était l'héritier de toutes sortes d'anciennes traditions de vie en forêt. Et puis, a décidé de les transmettre à Tom Brown au fil de plusieurs années, voire des décennies. Et puis, enfin, ce qui est arrivé, c'est que Tom Brown a décidé de se partir une école. Et puis, il a parti l'école Tracker, et puis dans lequel il transmettait toutes ces notions-là qu'il avait apprises avec Stalking Wolf. Et donc, il a été sur place et il s'est rendu compte, John DiFruccia, que c'était une école des plus authentiques. Ce n'était pas une simple affaire de survie dans le bois. C'était vraiment toutes sortes de techniques ancestrales qui étaient adaptées au milieu désertique, au milieu forestier, au milieu hivernal, à toutes sortes de milieux. C'était, il a passé des années et des années et des années avec Tom Brown. Jusqu'à ce que vienne le temps de revenir avec sa femme et ses enfants, puisqu'il s'est fait une femme et des enfants, au Québec. Et là, rendu au Québec, il voulait s'établir. Il avait qu'une idée, c'était de s'établir à la frontière du Labrador, dans le nord-est du Québec. Il aurait très bien pu. Et connaissant toutes les possibilités forestières, il aurait pu sûrement se créer une vie relativement confortable, dans ses standards à lui, évidemment. Sauf que il est venu le temps de le faire et il s'est trouvé égoïste. Alors, il trouvait que c'était un peu égoïste de garder ce savoir-là pour lui quand il y a plein d'autres personnes qui en auraient peut-être besoin ou qui aimeraient l'avoir. Alors, à la place, il a décidé de s'établir là où la forêt boréale descend au plus bas, à la plus basse latitude, ce qui est dans la région de Lanaudière. Et puis, c'est approximativement au niveau de Saint-Côme qu'il s'est établi. Il a acheté une grande terre sur laquelle il a établi certaines bases nécessaires et il a fondé l'école, une version québécoise de cette école, l'école Manitou, l'école de vie et survie en forêt Manitou. Et puis là-bas, il a transmis toutes sortes de il y a des cours où on peut vraiment apprendre la base, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se chauffer, se vêtir, Mais ça va plus loin. On apprend le pistage des différents animaux et puis on va éventuellement à la rencontre des animaux. Et puis il y a des cours sur les plantes médicinales, etc. Et puis c'est un savoir des plus précieux qui est transmis. Donc cette école-là a fini par être un succès. Et puis, contre toute attente du père de John DiFruccia. Et puis enfin, John DiFruccia en a fait une école... qui a pu être vendu et puis maintenant ça a été repris par quelqu'un d'autre, mais le savoir a été transmis de manière correcte et puis ça se poursuit aujourd'hui. Donc chapeau à John DiFruccia pour son effort et puis sa générosité pour avoir transmis ce savoir à travers le Québec à partir de Lanaudière. On va aller écouter Martin Léon avec une pièce qui est sortie sur son dernier album l'année passée et c'est Tu comprends rien.
commun, c'est qu'on utilise juste 10% de notre cerveau.
Tu comprends rien.
J'ai pas envie de me battre avec toi pour pouvoir posséder l'océan. J'ai juste envie que toi et moi on puisse se baigner dedans.
Tu comprends rien.
Alors qu'on s'assine pour savoir qui va tenir le râteau. Personne s'occupe du jardin.
Tu comprends rien.
Tu comprends rien de Martin Léon. Alors, on va parler du deuxième producteur qui a été source de motivation, qui est toujours source de motivation aujourd'hui, c'est un certain Marc-André Saint-Yves. Marc-André Saint-Yves, lui, originaire des Bois-Francs. Et puis, il a étudié à Saint-Hyacinthe en production agroalimentaire fromagère. Et puis, il a travaillé dans une fromagerie de chèvres pendant longtemps. Et puis, lui, c'était pas un simple employé d'une fromagerie. C'était vraiment un passionné du fromage. Il a décidé de pousser jusqu'à fond sa passion du fromage. Et puis, il a décidé d'en faire, mais sauf qu'il n'y avait pas de fromagerie. Donc, il a décidé d'en faire chez lui, dans son appartement, non loin de Trois-Rivières, avec sa compagne. Et puis, ses fromages... ça avait besoin du lait, donc il a été chercher son lait dans certains chèvriers non loin. Et puis, il a affiné ses fromages dans son portique de son appartement. Et puis, contre toute attente, c'était des fromages fantastiquement bons. Et puis, à un moment donné, il y a eu des dégustations chez une microbrasserie du coin, avec laquelle il affinait d'ailleurs certains de ses fromages. Et puis, il faisait des dégustations à la pleine lune de bière et fromage. Il a pu donc présenter ses fromages à cette occasion-là. Et puis, ses fromages ont fait un ravage total. Si bien qu'il y a des restaurants qui ont commencé à en commander. Et puis, il a commencé à en vendre de fil en aiguille à un restaurant. Et puis là, son portique suffisait plus chez lui. Donc, il a officiellement été rencontrer la fromagerie du Pastoureau dans les Bois-Francs. Il leur a demandé, « Je pourrais-tu utiliser vos locaux quelques instants pour faire mon fromage à chaque semaine? » Ils ont accepté et donc, avec leur permis, il a fait son fromage et étant donné qu'il a travaillé de manière soignée au plus haut point, c'est devenu un des fromagers au Québec les plus respectables. Il a fini par s'acheter sa propre fromagerie et c'est devenu la fromagerie de la Petite Cornue. Et puis, les deux fromages qu'il faisait à l'époque, puisqu'aujourd'hui... il n'y a pas de fromagerie propre à lui. C'était deux fromages qui aujourd'hui peuvent à eux seuls incarner la renaissance des fromages là, qui a vraiment reparti de plus belle en 2000. À partir de 2000, ça repartit, mais la régénérescence des fromages a parti en 1995, mais il y a vraiment eu un boom à 2000, 2001, 2002, 2003. Et puis, c'était la belle époque avant la crise du lait cru. Donc, Marc-André Saint-Yves a fait la tome de cervoise. Ça, c'est un fromage rustique qui évoque le Moyen-Âge. C'est une tome, donc un fromage cylindrique plat. C'est une tome semi-ferme. Puis, c'est de la brebis, mais de la brebis au lait cru. Puis, la plupart des brebis qu'on fait au Québec présentement sont relativement doux. Mais celui-là... un certain goût là, qui allait chercher des notes assez fortes. Là. Et puis, c'était affiné avec une bière biologique. À la fin, il affinait ça avec une bière de la Barberie à Québec, d'ailleurs, une bière biologique. C'était un fromage biologique en entier. C'est un fromage fantastique, vraiment bon. Évidemment qu'il coûtait un peu plus cher, mais ça coûte toujours plus cher d'encourager ce type de qualité-là. Puis, il faisait aussi le délice de Capou, qui était un fromage jusque-là inconnu au Québec. Là. C'était une faisselle. Une faisselle, donc un fromage relativement frais, moulé à la louche. Et puis, c'était affiné avec une mistelle qui venait d'Estrie. Une mistelle, c'est un vin muté à l'eau de vie. Et puis, ce fromage-là était tellement particulier. On en disait qu'il y avait des notes, puisque c'était un chèvre, il y avait des notes qui allaient chercher certains chèvres en particulier français. Des chèvres qu'on a le droit de faire avec des normes qui sont pas mal plus... même avec les normes européennes, en France, c'est quand même plus permissif que les normes au Québec qui sont identiques aux normes des États frontaliers et puis du reste du Canada. Là. Donc, lui allait s'arranger pour avoir certains ferments qui sont absolument pas disponibles en Amérique du Nord. Il faisait rentrer par des méthodes qui, bon, ferait peut-être sourciller... Aujourd'hui, certains, et puis c'est évidemment que c'est probablement plus possible aujourd'hui, mais il avait réussi à avoir ce ferment-là qui est tout à fait autorisé en Europe pour faire certains chèvres depuis belle lurette. Et puis, il a fait le délice de Capou qui battait toutes sortes de scores. C'était un fromage fantastique. Malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Et puis, M. Marc-André est reparti en France. C'est les dernières nouvelles qu'on avait eues de lui pour faire un stage de plusieurs années pour apprendre comment faire un bleu, mais un bleu des plus authentiques. Il est revenu et puis il s'est mis à l'œuvre. Et puis maintenant, M. Marc-André Saint-Yves signe des fromages. Alors, je tenais à saluer M. Marc-André Saint-Yves parce que pour l'avoir rencontré, visité sa fromagerie et vu évoluer au fil des années, ça a été une source d'inspiration. Il avait seulement 25 ans quand il a commencé, puis à 28 ans, il avait déjà sa première fromagerie, là. Et puis aujourd'hui, c'est ça, c'est un signataire de fromage. Je trouve que c'est une belle position. Alors, sur ça, je le salue. Et on va aller écouter du Joy Division avec la pièce « Digital ». C'était Joy Division avec Digital. Le dernier producteur qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un producteur... c'est pas un producteur, c'est un institut. C'est une initiative qui a été portée à partir de la fin des années 90, autour de 98. Il s'agit de l'Institut culturel Avatak. L'Institut culturel Avatak, lui, travaille dans le Nunavik. Le Nunavik est dans le nord du Québec, comme je disais précédemment, à ne pas confondre avec le Nunavut, qui lui est un territoire du Canada. Mais le Nunavik, c'est le nord du Québec. La ville la plus nordiste du Québec, c'est Iwuyivik. Eux sont basés à Koujouak, qui est dans la baie d'Ungava. Dans le nord-est du Québec, vous voyez, il y a comme un arc, une grande baie en arc. Et puis, c'est la baie d'Ungava. Et juste dans le renflement se retrouve Koujouak, autrefois connu sous le nom de Fort Chimo. Et puis, là-bas, autrefois, habitaient les Naskapi, mais se sont déplacés eux-mêmes. Ils ont marché jusqu'aux alentours de Schefferville. Aujourd'hui, c'est les Inuits qui habitent là. Et puis, il y a des problèmes, évidemment. Il n'y a pas d'emploi. Et puis, les jeunes sont un peu déculturés, apathiques. Et puis, il y a un problème de déculturation, là, si on veut. Même si ce mot-là, je ne sais pas s'il existe tout à fait. Il y a un problème d'éducation aussi et tout ça. En même temps, les aînés, il y a un gros problème avec les aînés aussi, qui sont les aînés de plus en plus aliénés. Alors, ils ont décidé de l'Institut culturel Avatak qui veille un peu sur l'activité économique et ou culturelle, socio-culturelle, si on veut, dans le Nunavik, à partir de Kujuak. Ils ont décidé de joindre ces deux groupes qui sont les plus affectés socio-économiquement là-bas. Donc, les jeunes n'ont pas de savoir, mais ils ont beaucoup d'énergie. Et les vieux, ils ont moins d'énergie, mais ils ont beaucoup de savoir à transmettre, notamment sur les ressources naturelles, les différents phénomènes météorologiques, les plantes médicinales aussi. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de tu sais, voyons, il y a toutes sortes de plantes dans notre toundra. Il faudrait peut-être qu'on le mette en valeur. Et il me semble, si tout le monde se fait du thé ici, je pense qu'on peut se faire... pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commercialiser nos tisanes et en faire des tisanes intéressantes? Donc, ils ont été parlé à des aînés. Et puis, les aînés, certains aînés ont accepté de prendre sous mentorat des jeunes qui eux, ont accepté de devenir les apprentis de certains aînés pour parcourir le territoire et recueillir différentes herbes pour faire de la tisane. Et puis, c'est de la tisane vraiment inuite avec des plantes qui se retrouvent... parfois ailleurs, mais c'est vraiment la variété qui a été cueillie à la main là-bas. Les tisanes, évidemment, sont envoyées à Montréal pour être transformées à Montréal parce qu'il n'y a pas la machinerie pour le faire à grosse échelle à Kujuak, mais c'est quand même vraiment... Il y a quand même des retombées économiques qui vont vraiment avec les employés là, qui vont les chercher. C'est pas du cheap labor, c'est vraiment un projet qui vise à transmettre le savoir des aînés. Et comme ça, ils vont cueillir du genévrier, évidemment, du thé du Labrador et puis de la chicoutée, qui s'appelle aussi ronce petit mûrier. Et puis, mais aussi d'autres choses comme la camarine noire, qui est une baie qui pousse, elle, un peu plus dans le nord et puis qui est très foncée, qui donne un goût vraiment intéressant à la tisane. Pongakoutik et puis Lukiartut. Excusez-moi, je massacre la prononciation, là. Mais... Ukiurtatuk, ça c'est une petite fleur de la toundra qui est bon contre les maux et les crampes. Et puis c'est un goût un tout petit peu mielleux, légèrement floral. C'est vraiment fantastique de voir qu'on est capable de faire surgir des saveurs insoupçonnées comme ça de notre nord. Et puis ça nous provient d'un projet qui est en train de fleurir dans le sens que les jeunes sont en train de prendre la relève. Et puis là maintenant, cette entreprise-là qui s'appelle Délices Boréales, est en train de fonctionner très bien. Et puis, c'est disponible dans différentes épiceries fines. Si jamais vous arrivez à tomber sur une boîte de tisane Délices Boréales, je vous conseille fortement d'en essayer une assortie, disons. Et puis, si vous allez être en train d'encourager ce programme-là, et en même temps, vous allez être en train de goûter une partie de notre patrimoine floral. Et puis, je tenais à souligner ça. Évidemment, c'est pas la même chose que d'aller faire une tisane sur place là-bas avec seulement l'herbe. Là. C'est sûr que c'est dans des sachets, puis c'est un peu dilué. Mais sauf que, dites-vous qu'un jour, ça fait que simplement vous faire patienter jusqu'à la journée où vous allez pouvoir aller dans Nunavik et puis parcourir le territoire, et puis que quelqu'un vous montre une plante, vous en fasse bouillir après avoir été... dans un iceberg, dans le milieu de l'iceberg, chercher de l'eau pure, qui est soi-disant la meilleure pour faire des tisanes. Et puis, vous aurez peut-être la chance d'y goûter sur place un jour. Alors, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Et puis, on va se laisser avec de la musique. Ce sera pour l'émission prochaine qu'on va explorer les différents monastères du Québec. Et puis, il y aura aussi... dans une prochaine émission, on va prendre le virage où on va pouvoir prendre des appels au courant de l'émission. Et puis la question va être où est-ce qu'on devrait prendre nos vacances au Québec pour avoir des vacances pas chères. Finalement, la chronique fantôme va revenir aussi avec la prochaine émission. On va parler de fantômes gaspésiens. Alors, on va se laisser tout de suite. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir écouté. On va aller du côté... mais c'est pas très loin du nord où il y a des icebergs et tout ça, là. C'est plus du côté du Manitoba, par contre. C'est un artiste manitobain qui s'appelle désormais Caribou. Et puis, on va écouter la pièce Odessa. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté. Au revoir.
I've got